rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaut Dautuil au micro de Radio Présence pour le deuxième épisode d'une rencontre avec un de nos évêques, Monseigneur Camiade. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaut, bonjour à tous les auditeurs.
Et donc pendant ce mois de février avec vous, nous avons un thème que nous avons intitulé « La recherche du Christ et ses déviances » qui s'appuie en fait sur votre expérience dans le cadre d'une cellule de la Conférence des évêques de France dont vous êtes l'évêque accompagnateur, cellule qui s'appelle l'Observatoire des Nouvelles Croyances. Donc la semaine dernière, nous l'avons longuement présenté. Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire, Monseigneur Camiade, quelle est l'actualité de cet observatoire aujourd'hui ?
Alors l'observatoire aujourd'hui, d'une part, c'est un petit peu renouvelé, c'est ouvert. On a essayé d'inviter notamment des théologiens, des gens qui réfléchissent sur la théologie spirituelle, et qui peuvent être aussi des chercheurs, à partir du travail qui a été produit par l'observatoire, de toutes les observations et toute la réflexion qui en découle, notamment le troisième rapport qui a été fait, donc qui n'a pas été publié, qui a été destiné aux évêques, où on insiste sur le fait que la présence de chercheurs spirituels dans la société actuelle et dans l'Église, ou en tout cas en contact avec l'Église, implique pour l'Église vraiment une réflexion de fond et des réflexions pastorales, une manière de présenter ce qu'est l'Église qui peut être différente à l'intention de ces personnes qui a priori ne sont pas attirées par l'institution, voire même pas du tout, voire peut-être la rejettent. Comment se situer et comment avoir une action pastorale dans ce contexte-là. Et donc, on a, avec notamment le Centre Sèvres, il y a un projet de séminaire de recherche qui est en cours à partir
de des nouvelles quêtes. Le Centre Sèvres, qu'il faut rappeler.
Donc, c'est une faculté de théologie qui dépend des jésuites sur Paris. Donc, ils ont l'habitude de réfléchir sur les questions de théologie spirituelle en particulier, pas uniquement, aussi en rapport beaucoup avec la pastorale et avec la société contemporaine. Et puis, il y a aussi un projet, un avant-projet, disons, de groupe de recherche aussi au niveau de la recherche interdisciplinaire à l'Institut catholique de Toulouse, qui pourrait se saisir du sujet. On n'a pas, il y a des réunions qui sont prévues pour voir si on finalise ou pas ce projet-là.
D'accord, donc ça veut dire
que là il y a un renvoi un petit peu de l'observation faite par des personnes qui pour la plupart sont un peu collées au terrain, si on peut dire, hein, et qui à partir de leurs observations réfléchissent ensemble pour aider les évêques dans leur vie pastorale. Hein. Toutes les structures de la conférence des évêques sont faites pour aider les évêques dans leur ministère pastoral, mais on s'est dit là il y a un matériau qui doit être approfondi et notamment
théologiquement
et notamment par des universitaires, voilà, parce que c'est un enjeu important. Et ça, c'est, je crois, assez important que ce travail qui ait été fait par un observatoire comme ça, la Conférence des évêques, eh bien, il y a une sorte de renvoi aux théologiens qui puissent ensuite nous renvoyer peut-être les résultats de leurs recherches et cela peut nourrir, orienter, aider à préciser des axes pastoraux pour l'Église dans les années qui viennent.
Donc vous dites que l'équipe de l'observatoire est connectée au terrain, mais vous l'êtes vous aussi puisque vous faites régulièrement des visites pastorales, vous avez l'occasion peut-être de toucher du doigt justement ces nouvelles spiritualités. Est-ce que vous avez des exemples récents à nous...
Alors c'est évident que nous rencontrons tous, déjà ne serait-ce que par exemple dans le catéchuménat, des gens qui sont passés par toutes sortes de recherches avant d'arriver à la foi. Je pourrais citer aussi l'exemple d'une religieuse qui est entrée dans un monastère et qui est passée par des quêtes spirituelles très très bizarres avant de finalement se retrouver dans un carmel. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Alors, dans une visite pastorale récente, j'ai entendu parler, je le savais déjà, mais d'un groupe qui organise des séminaires de développement personnel à partir d'une spiritualité inspirée de plus ou moins de l'hindouisme, mais détachée de toutes les religions, qui se veut d'ailleurs une démarche de démarche spirituelle qui transcende toutes les religions sans les renier, parce que c'est très, très à la mode aujourd'hui. Enfin, je dis que c'est à la mode parce qu'il y a beaucoup d'écrits qui vont dans ce sens-là, de recherche, où on essaye de chercher un peu une religion qui soit la quintessence de la religion, qui ne soit plus limitée. La religion est perçue comme une limitation, comme un frein au développement personnel.
Oui, débarrasser de ses formes aussi, de son formalisme, oui, et de ses structures.
Alors, il y a des formes quand même, hein, parce que dans ce groupe-là, oui. Il y a des mantras, il y a des attitudes, il y a des manières de s'habiller, il y a des manières de vivre. Il y a quand même d'autres formes, en réalité, oui. qui sont là. Mais, alors, je discutais une fois avec des paroissiens dans cette visite pastorale sur la manière dont ils pouvaient percevoir ce groupe-là. Oui. Et alors, une personne m'a dit, je trouvais que c'était assez éclairant, parce que par rapport à ce que j'ai lu, de ce qu'ils disent, ça correspond finalement assez, mais c'est perçu de manière simple. Mais elle me disait, mais au fond, de toute façon, ils se situent au-dessus de nous. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes respectables. Même certains d'entre eux viennent à la messe, ça ne les dérange pas du tout. Mmh. Mais eux, ils sont au-dessus. Ils ont atteint un développement personnel supérieur aux chrétiens.
Voilà. D'accord, mais ce sont des cathares, en fait.
Je ne sais pas, voilà, c'est peut-être une caricature. Mais en tout cas, il y a quelque chose de la conviction d'avoir atteint une illumination ou quelque chose qui dépasse...
tout en s'enracinant dans une foi chrétienne, alors.
C'est-à-dire sans renier ce que peut apporter... une pratique religieuse, quelle qu'elle soit, que dans le christianisme il y a de bonnes valeurs, mais qu'il y en a aussi d'autres qui ont dévié de l'ancien. On dit que on se base surtout sur le Christ comme un sage, s'il était l'enseignant d'une sagesse, parmi d'autres sagesses, et donc toute sagesse est bonne à prendre, mais on ne voit plus le Christ comme le sauveur. Comme l'unique sauveur. Et c'est ça qui est évidemment un point délicat. Alors effectivement, nous, chrétiens, nous ne nous situons pas au-dessus des autres, mais nous savons que nous croyons dans le Christ qui est le sauveur, et qui est le sauveur de tous. Mais c'est pas parce que nous avons atteint un stade de développement supérieur aux autres. C'est au contraire, on sait bien que dans l'Église, il y a beaucoup de pécheurs, et nous les premiers.
Dans ce cas-là, dans ces dialogues-là, vous permettez aux paroissiens de comprendre un peu le positionnement de ce groupuscule, vous les éclairez, et vous essayez aussi, dans ce cas-là, de montrer un autre chemin à ces personnes-là. Est-ce qu'il y a un objectif de quoi ? De reconversion
Alors, c'est pas toujours facile de parler, parce que finalement, le discours, c'est quand même souvent en face, oui, mais de toute façon, vous n'êtes pas crédible, parce qu'il y a des guerres de religion, parce que vous dites que les chrétiens, vous êtes unis autour du Christ, mais il y a des protestants, des orthodoxes et des catholiques, vous ne vous entendez pas entre vous. En réalité, on a vécu au mois de janvier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes retrouver, nous prions ensemble, bien sûr nous reconnaissons des différences, mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes en guerre, en tout cas pas ici et pas dans le Lot, voilà. Oui. Mais cette année nous avions à Cahors, en plus de traditionnellement il y a toujours un orthodoxe, un pasteur protestant, une anglicane, nous avions aussi une épiscopalienne écossaise, et puis cette année un évangélique de l'Assemblée de Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on ne progresse pas dans l'œcuménisme.
Oui, voilà. Mais c'est vrai que ça nous renvoie à cette caricature de Mahomet dont on parlait de Charlie Hebdo dont on parlait la semaine dernière, qui renvoie effectivement Mahomet et Dieu au même rang de diviseur et de fomenteurs de guerre, etc. Ça reste aujourd'hui très ancré dans l'imaginaire.
Après, évidemment, quand on voit le terrorisme, quand on voit encore certains affrontements sous prétexte de la religion, et en fait la grande erreur, c'est qu'on pense que ce sont les religions qui sont source de guerre, alors que ce sont des hommes qui se servent de leur religion ou d'une religion pour justifier leur guerre, justifier leur volonté de conquête, ou leur mal-être, les reproches, le sentiment d'injustice qu'ils peuvent avoir face au déséquilibre du monde, face à l'attitude, par exemple, du peuple d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Enfin, là, ce sont des querelles d'hommes, et on en fait des querelles religieuses. Mmh. Mais en fait, c'est parce que des hommes s'identifient à des religions et s'en servent comme prétexte pour s'opposer et pour se rejeter les uns les autres. Mais ça n'est pas ce que demande leur religion.
Non, en général, non.
En général, non.
Donc l'enjeu, effectivement, ce sera de ramener ces personnes quelque part face à la figure du Christ. Parce que l'enjeu, c'est une recherche spirituelle. Nous, on a à leur présenter la figure du Christ. c'est le remettre, le remontrer que le sauveur est
venu. En fait, tout l'enjeu, c'est effectivement de découvrir que notre quête spirituelle trouve son accomplissement dans le Christ qui est notre sauveur. En même temps, toute la réflexion que nous avons dans l'Observatoire des Nouvelles Croyances, c'est de se dire dans quelle mesure, effectivement, toute quête spirituelle trouve tout son accomplissement dans le Christ, ou bien est-ce que dans la quête spirituelle humaine, il n'y a pas aussi des choses qu'on peut trouver dans la culture, parce que le Christ nous sauve, il est l'unique sauveur, il n'est pas forcément l'unique source de sens pour la vie humaine. Dans la création, il y a toute une palette de couleurs, on le voit bien d'ailleurs, ne serait-ce que par la diversité justement des expériences chrétiennes. J'étais il y a quelques jours au Burkina Faso et je vois bien que la manière de célébrer le Christ au Burkina Faso n'a pas tout à fait les mêmes couleurs, ni la même durée d'ailleurs. La messe qui a duré 5h30, bon, il y avait des ordinations,
mais c'était,
voilà, on n'a vraiment pas la même manière, pas le même rapport à la foi, même si vraiment nous croyons au même Christ sauveur, nous disons le même credo et nous célébrons l'Eucharistie, nous vivons les mêmes sacrements, mais de manière tellement différente. Je crois que ça nous aide aussi de visualiser cela, de penser que dans les cultures, dans les éléments de notre culture, il y a aussi des choses qui nous conduisent au Christ, mais qui nourrissent aussi notre sensibilité, nos besoins spirituels. Je vois notamment la manière qu'ils ont de danser. Alors peut-être que nous sommes trop hiératiques dans nos manières de célébrer, mais on voit bien que voilà, c'est le Christ qui les sauve, mais il y a des pratiques religieuses qui sont issues de leur culture. Ils appellent ça d'ailleurs l'inculturation de la foi. Oui. Voilà. Et donc peut-être nous avons aussi à trouver des manières d'inculturer notre foi chrétienne dans les quêtes spirituelles d'aujourd'hui. Et sans renier en rien le salut en Jésus-Christ qui est central et sans qui nous ne pouvons rien, mais en percevant que même le sens même de ce salut, nous avons à le redécouvrir sans cesse.
C'est un renversement intéressant de la proposition. Merci beaucoup Monseigneur de nous avoir accompagnés aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine.
Rencontre avec nos évêques.